Mémoire vive, présentée par Ève Cheftel.
Préparée par Rachel Rimer, une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah avec RCJ. Aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir une jeune metteuse en scène de théâtre, vous avez à peu près mon âge, ça je me permets de dire ça, qui est aussi la directrice de la compagnie Retour d'Ulysse, Justine Wojtyniak, j'espère que je prononce bien votre nom. Je m'appelle Cheftel, mais je ne connais pas le polonais. Pour notre classe, une pièce adaptée de Tadeusz Słowodzianek est traduit du polonais. C'est une pièce qui se joue actuellement, la première était hier lundi 24 avril au Théâtre de l'Épée de Bois, donc à la Cartoucherie à Paris, qui se joue jusqu'au 10 mai 2017. Donc il y a 10 représentations, c'est ça à peu
Tout
près.
Tout à fait, oui. Nous jouons le lundi, mardi et mercredi soir à 20h30.
Voilà, d'où voilà, c'est important pour nos auditeurs de le savoir. D'autant que voilà, j'espère qu'on va vous donner envie d'aller voir cette pièce très importante. Alors rapidement, c'est l'histoire en fait en 14 leçons. Hein, bon, on est dans la thématique scolaire. L'histoire de 10 camarades de classe, donc juifs et catholiques, entre 1929 et 2003. Et cette histoire va se briser en 1941. Au moment donc où les catholiques du village, dont font partie certains camarades de classe, vont perpétrer un massacre dans une grange où ils vont enfermer les juifs de ce village. Parce que ce village, petite ville, vous allez nous en dire un peu plus. Et voilà, mais la pièce se poursuit ensuite après-guerre, avec les rares survivants et ceux qui ont eu la chance de partir à temps. C'est une leçon, enfin ce sont 14 leçons qui sont une véritable leçon, alors à la fois d'histoire, parce qu'on apprend aussi beaucoup de choses sur l'histoire polonaise. C'est aussi une leçon de théâtre, parce que je trouve que la mise en scène est vraiment brillante. Et c'est une pièce très forte, qui n'élude rien de la violence de l'histoire. Une pièce donc dérangeante, éprouvante pour le spectateur, je préfère prévenir les auditeurs, mais je dirais d'une absolue nécessité face aux falsifications toujours actuelles, à la tentation du révisionnisme et aux instrumentalisations à des fins nationalistes ou autres qui n'ont cessé d'édulcorer, de relativiser la Shoah, voire de noyer sa spécificité. Parfait. Voilà. Peut-être que vous pouvez d'abord nous dire un mot avant de parler de la pièce, du texte et de votre rencontre avec ce texte.
Alors, le texte de notre classe de Tadeusz Słowodzianek est écrit à partir de récits d'investigation de Jan Tomasz Gross et Anna Biconte. Donc, il y a deux grands livres qui sont à l'origine de ce texte. Les voisins, qui ont complètement bouleversé l'opinion publique en Pologne et qui ont donné lieu à un débat sans précédent, en fait, parce qu'après 70 années de silence, c'est pour la première fois qu'on a osé parler de la co-responsabilité des Polonais dans la Shoah, dans la Shoah en Pologne.
Et ça, il est paru en 2010.
En 2000.
2000,
en
d'accord.
2000. Et Anna Biconte, Nous de Jedwabne, c'est un livre absolument extraordinaire qui se lit un peu comme une enquête presque policière et en même temps sociologique, philosophique, parce qu'elle va au village, elle va rencontrer le témoin vivant et les acteurs aussi de ce crime, de ce massacre. Elle va leur poser la question, elle va se rendre compte que le non-dit est absolument et total, et que la raison est bien fort simple, c'est que ces gens-là, tout simplement, se sont accaparés de maisons de leurs voisins juifs, de leurs biens, et donc ce non-dit est perpétré et continuellement transmis, tout en étant paradoxalement connu par tout le monde. Mmh. C'est-à-dire les générations, les jeunes gens de Jedwabne, de ce village village, il y a un maire, donc c'est plutôt une petite ville moyenne de l'est de la Pologne, un peu pareil dans laquelle moi je suis née. J'ai passé mon enfance et mon adolescence. Ma ville s'appelle Zvolen, c'est pareil, il y a eu 50% de la population juive avant la guerre. Et il y a quelque chose qui se passe en Pologne qui est absolument inadmissible pour moi, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune façon de transmission de cette mémoire juive. C'est-à-dire que moi, très clairement, j'étais dans une école qui était plutôt, comment dire, éclairée, c'est une bonne école, et mes profs d'histoire n'en parlaient pas de juifs de notre ville. La Shoah, ça s'est toujours passé ailleurs. C'est jamais chez nous. C'est comme si chez nous, il n'y avait jamais de juifs. Et donc, c'est ce silence-là qui me révolte. Et donc, pour revenir à votre question, donc, Tadeusz Swobodzianek trouve l'idée de ce livre, évidemment, suite à ses écrits d'investigation,
d'historien,
d'historien polonais, c'était ça. Enfin, avec Jan
polonais,
Gross,
voilà,
on en avait parlé. C'était la première fois que ça venait de Polonais eux-mêmes, parce que
tout à fait,
les historiens.
Tout à fait. Mais
raconté,
ceci dit, Jan Gross, il a émigré de Pologne avec les dernières vagues d'antisémitisme en 68, et donc il habite à New York
aujourd'hui. Et puis aujourd'hui, c'est même compliqué. On avait fait une émission pour parler des difficultés qu'il avait aujourd'hui.
Le gouvernement actuel.
Oui. C'est assez affligeant ce qui se passe. C'est-à-dire qu'il a reçu l'ordre de mérite de la République polonaise de la part de notre précédent président qui a fait un vrai mea culpa et qui évidemment était extrêmement critiqué et qui est aujourd'hui manipulé et utilisé. Mais Jan Gross a fait vraiment la une des journaux en disant comment ce juif encore ose de blâmer le bon nom de Polonais.
Donc là, voilà. c'est toute la ça, question ça... de qu'est-ce qui s'est passé en Pologne et quel a été le rôle des Polonais eux-mêmes.
Tout à fait.
Et ça, c'est vrai que ce texte, de ce point de vue-là, est assez...
Oui, mais moi, je trouve que chaque pays, finalement, doit s'interroger là-dessus, c'est-à-dire sur notre part de co-responsabilité dans cette entreprise criminelle, dans cette entreprise, je veux dire, sans accord ou en tout cas sans silence de la part des gens autour, ça ne pouvait pas se passer. Et ça, je pense que en Pologne, c'est absolument nécessaire de les regarder en face.
Et vous, à quel moment, en tant qu'enfant, vous êtes rendu compte de ce non-dit?
Je ne me suis pas rendu compte enfant. C'est pour ça, justement, grâce à ce spectacle, j'ai guéri d'une certaine façon ma blessure, que j'appelle la blessure du silence. Je me suis rendu compte très tardivement. Mes écoles buissonnières, si je puisse dire comme ça, je l'ai passé dans un parc abandonné, qu'on appelait tous communément Kierkout. Et ce n'est que des années plus tard que j'allais apprendre que ce parc abandonné, c'est un cimetière juif, un des plus anciens de Pologne, qui date de 1591, je parle de ma ville Zvolen, et qui était complètement rasé, transformé, parce que ma ville, elle faisait partie d'un concours de plus belles villes de la région, et donc le maire a trouvé bon de raser complètement ce qui a resté de ce cimetière et de le transformer en parc municipal, qui évidemment n'a pas tenu très longtemps et qui était un peu comme un lieu hanté, mais moi, quelque part, ma première école de vie, je l'ai passée sur cette terre-là. C'est-à-dire, donc, et je l'apprends très tardivement. Je émigre en France en 2002, je rencontre un historien, je reviens avec lui plusieurs fois en Pologne, et donc on était toujours très porté sur l'histoire de la Shoah, on a toujours énormément discuté, et un jour, en étant chez moi, chez mes parents, il me demande, mais qu'en est-il de l'histoire des juifs de ton village, de ta ville? Je dis, bah, il n'en est rien, ils nous en ont... S'il y avait quelque chose, je l'aurais su. Voilà, j'ai quand même eu des profs d'histoire avec qui j'ai énormément échangé. Ce n'est pas possible. Et il m'a dit, mais allons voir à la bibliothèque si peut-être il existe un document. Je dis, non, non, absolument pas, je l'aurais su. Il n'en est pas question. Et en effet, là, on va à la bibliothèque et il se trouve que mon prof d'histoire, qui était déjà décédé, a écrit un livre édité en 3 exemplaires de l'histoire des Juifs de Zvolen de 1500 jusqu'à 1940. Et donc, c'est une seule trace unique. Et le bibliothécaire, le femme qui nous ont gentiment photocopié ces livres, on dit, vous êtes les premiers à les consulter, ces livres. Donc, c'est ça qui est affligeant, et c'est ça qui est terrible et terrifiant. Donc, moi, j'étais choquée d'apprendre que mes grands-parents, mes parents ne m'ont pas parlé, que mes profs d'histoire ne m'ont pas parlé. Et je suis vraiment révoltée contre ça. Et je trouve que c'est à ma génération de rompre ce silence et de regarder les choses en face.
Et là, c'est ce que vous faites avec cette
tout
pièce.
Tout à fait.
Vous reprenez la parole et vous donnez la parole finalement aux Juifs assassinés.
Ce sont des fantômes qui reviennent un peu comme dans la tradition du théâtre polonais. On appelle ça Zadouchki. C'est dans les aïeux de Mickiewicz et Chevespiański. Ça apparaît très fortement. Cette tradition du 1er novembre, que les vivants convoquent les morts et leur demandent qu'est-ce qu'il vous manque pour partir en paix. Qu'est-ce qu'on peut faire pour apaiser votre vie? Pour que vous soyez libérés du poids de vos existences. Et c'est ce qu'on essaye de faire avec ce spectacle. Très clairement, concrètement, on convoque ces personnes qui ont réellement existé.
Ces 10 personnages qui ont réellement existé.
Sont réellement existé. Après, il y a évidemment une réécriture.
De revenant, c'est ça, en fait.
Pour moi,
statut,
oui.
D'accord.
Mais l'auteur n'est pas tout à fait d'accord.
D'accord.
Ce que j'ai appris hier.
Une adaptation libre, hein,
oui.
Comme on dit,
oui.
D'accord. Alors, justement, est-ce que vous pouvez nous parler de vos choix d'adaptation, donc, et puis aussi de mise en scène, y compris des costumes. C'est très important dans la pièce, les vêtements. Vous jouez beaucoup de ça, des tissus, des vêtements.
Bah, les vêtements, pour moi, est un outil, c'est quelque chose qui porte la mémoire, qui porte l'empreinte du corps. Donc, je suis partie de cette idée-là. Ce sont de vrais vieux vêtements d'époque que j'utilise un peu en les sacralisant aussi. C'est pour ça, on essaye de dire qu'on peut aussi, un peu comme un D-book, se laisser prendre par un personnage à travers les vêtements.
Qu'il porte, ouais.
Tout à fait. Donc, il y a toute cette histoire d'habillage, de prendre en charge quelque chose qui, comme un fantôme, voilà, qui puisse se glisser à travers les...
Parce que pour que les auditeurs comprennent bien, donc sur scène, il y a comme un vestiaire comme ça accroché à des cintres.
Ce sont des armoires,
différentes armoires mais ouvertes, voilà. Mm. Et les personnages, donc les 10 personnages, se changent, voilà, selon les différentes périodes de leur vie, et changent parfois même d'identité. Alors, ce qui est intéressant, c'est que au départ, ils sont vraiment juifs et polonais. Là, c'était, je voulais vous faire parler de la polyphonie de votre travail. Ils sont en quelque sorte interchangeables, c'est simplement des camarades de classe. Puis petit à petit, ils vont s'identifier, bien malgré eux d'ailleurs, à travers donc la mise en avant côté polonais, de l'identité polonaise catholique qui va de fait exclure les juifs. Et puis ensuite, ils ne seront plus que victimes et bourreaux de l'autre côté.
Est-ce que vous avez remarqué que les rôles changent?
Exactement, oui, effectivement. Oui. Alors c'est ça qui est
intéressant aussi, que c'est pas vraiment une pièce machiavélique. En tout cas, moi, j'avais pas envie que cette pièce soit uniquement un acte d'accusation. Je voulais que ça soit un acte d'anamnèse, qu'on puisse vraiment mettre les mains dans la terre et voir qu'est-ce que ça nous fait aussi pour nous. À nous, les acteurs, on l'a vraiment très fortement vécu. Et comment on peut approcher et comprendre comment l'idéologie, la politique peut broyer les êtres humains.
D'autant qu'en plus, on est sur un temps long Et donc, on n'est pas que sur la Shoah.
Ça qui est intéressant.
Tout à fait. On est aussi sur la suite, en fait, et sur la manière
comment
dont après,
on porte
pendant
cette
l'époque
mémoire.
Communiste, les choses se rejouent de manière différente et les... voilà, les rôles changent.
Mm-hmm. Avec celui aussi qui est parti en Amérique, qui devient
le témoin historique, du
voilà.
coup.
Voilà. Oui. Oui, et qui est aussi un sorte de sentimentalisme. Vous avez vu que j'essaie aussi de mettre un point d'ironie sur ce témoignage-là, qui est un témoignage qui vient de très loin et qui finalement aura besoin de colorer les événements pour pouvoir se les approprier simplement. Donc,
il y a cette difficulté-là. En fait, il ne comprend plus ce qui s'est passé de la Pologne, de sa classe, en fait, de ce qu'il avait
connu. Lui, donc, il est parti, il faut comprendre qu'il est parti
en 37,
voilà, pour émigrer aux États-Unis, où il a fondé une famille, etc. Et puis, il continue à envoyer des lettres et à prendre des nouvelles de ses camarades de classe sans comprendre tout de suite, effectivement, ce qui se joue.
Oui.
Est-ce qu'il est advenu de ses camarades juifs qui ont été en fait massacrés, brûlés, tués par leurs propres camarades, quoi. J'avais une question par rapport puisque donc ce texte a déjà été joué, enfin mis
ce
en scène.
Ce texte était joué 40 fois dans le monde. Il y a 40 mises en scène
différentes
dans le monde entier, de New York via Tel Aviv, Oslo, Moscou. Vraiment, il était joué partout, toujours avec énormément de succès, finalement, parce que c'est un peu comme une métaphore de dissolution de liens à l'intérieur d'une communauté. Donc, évidemment, ça interroge quelque chose de très précis, mais ce n'est pas uniquement une prérogative du village de Jedwabne en Pologne, mais c'est aussi oui. la métaphore de notre vivre ou mal vivre ensemble, quoi.
Oui, on voit même en France, c'est une question aussi, la question de la responsabilité des Français dans le génocide juif. Elle a été de nouveau évoquée.
Une de nos candidates,
Ça reste une question très sensible. Est-ce qu'il a été joué en Pologne?
Oui, ce texte est joué en Pologne. Je dois le dire de manière très affirmée, il est joué dans un sorte de patois d'une langue de paysans. D'accord? Ce qui change complètement tout. C'est-à-dire qu'à Varsovie, c'est encore une fois une histoire de pauvres paysans mal éduqués, illettrés, dans le coin perdu de la Pologne.
Coup, ouais.
Donc les questions d'antisémitisme ne sont pas soulevées de manière ouverte comme ça aurait dû l'être fait, à mon avis. Et là, voilà, on en discute beaucoup avec l'auteur qui, lui... Et d'une certaine manière plus porté sur un message souterrain qui est adressé, qui passe, un spectacle qui a vraiment énormément de succès, qui est à l'affiche depuis plus de 10 ans, je crois, maintenant, ou 7 ans. Depuis 2010. Donc il revient continuellement dans le théâtre justement de Tadeusz Swobodzianek, dont il est directeur, le théâtre du Palais de Sciences et de la Culture à Varsovie, dans cet immense bâtiment socialiste. Et donc, il revient continuellement, une fois par mois, une fois sur 3 mois. Et donc, il est joué à guichet fermé. Et ce que je peux dire, c'est que vraiment, lui, il n'a pas envie... aller directement dans le questionnement de conscience et envie que ce travail se passe de manière souterraine, plutôt.
Ah oui,
donc, il déplace un tout petit peu quand même...
Chacun interroger, parce que comme il y a tous les autres personnages aussi qui
parce
représentent...
Parce que pourtant, le texte est quand même
Il y a aussi toute la suite, l'histoire de quand même qu'est-ce qui s'est passé après, comment ils ont été punis ou pas punis, et la manière dont le pouvoir communiste, après, a voulu reprendre les choses en main. Et je pense que pour certains, je suppose, dans la réception en Pologne, pour certains, c'est ça... Le traumatisme aussi, et donc le traumatisme de la Shoah, il s'est retrouvé un petit peu moins fort, enfin en tous les cas effacé par les années d'après, et peut-être qu'il laisse faire aussi cette sédimentation qui se fait finalement pas au même rythme selon les personnes.
Oui, oui, tout à fait, tout à fait.
Et cette violence, je me demandais comment cette violence, elle a pu être perçue en Pologne ou ailleurs, parce que c'est vrai que c'est rare d'avoir un texte de théâtre, même un texte de littérature, il y en a eu, mais ils n'ont pas eu tellement de succès. Justement, le polonais, là, Rawicz.
Piotrowicz. Mais bon, enfin là, c'était sur les écrivains juifs, d'après la Shoah.
Oui, oui, mais ce que je veux dire, c'est que...
Il y a aussi même Lev Rochman, enfin dans l'écriture des fantômes. Enfin tout à l'heure quand je vous écoutais, on a
c'est
ça,
vrai que ça
aussi
fait penser.
Dans la
mais là par exemple concrètement sur le massacre proprement dit, aucun détail. Enfin bon, on rentre vraiment dans la grange quoi, comme on pourrait rentrer dans la chambre à gaz. Enfin on rentre dans la grange. Avec ce masque, à travers le personnage de Dora, un des personnages qui, étant revenant, justement, peut raconter.
C'est la grande question. Qu'est-ce qui est représentable? Qu'est-ce qui est irréprésentable? Donc, on reprend de nouveau cette question d'Adorno. Est-ce qu'il est possible de parler de ça? Et donc, Swobodianek a envie vraiment revenir sur toute cette réticence du discours. Il dit on peut nommer ces choses et il faut peut-être même les nommer pour pouvoir les exorciser et pouvoir vivre en sorte de catharsis. Donc il va aller dans cette direction-là, dans cette parole.
Oui, le tabou, il le brise totalement.
Complètement.
Il ne passe pas à côté.
Complètement.
Il ne fait pas des tours et des détours.
Et moi, pour me débrouiller avec ça, parce que j'ai trouvé qu'il y avait une possibilité du complaisant et du voyeurisme.
Tout à fait.
M'a vraiment, vraiment effrayée. J'ai dit dès le départ, nous sommes plutôt dans une optique testamentaire, c'est-à-dire le fantôme sont convoqués sur scène, tout ça c'est leur vie passée, ils ont 2 heures pour raconter leur histoire et ils la racontent déjà avec une certaine distance. J'avais pas envie interpréter des choses mais qui sont vraiment insoutenables.
Absolument.
Et ça, il faut bien
les
dire.
Effectivement, c'est ça. On a l'impression qu'il y a une grande, grande violence dans la pièce et que vous, grâce à votre mise en scène, et grâce à la représentation, vous la rendez un peu plus acceptable, finalement. Enfin, en tous les cas...
J'ai travaillé énormément sur une poétique qui pourrait atténuer cette douleur-là et qui pourrait nous travailler plus dans notre... pas de point de vue intellectuel, comment on pense la Shoah, mais plus justement, en effet, comme un catharsis, comme quelque chose qui nous parvient de manière inconsciente. Donc, j'ai travaillé vraiment aussi sur les images.
Sur des tableaux, sur le ralenti
tableaux,
aussi, les gestes. Les personnages miment les gestes de tuer, mais au ralenti, comme ça, avec ces linges qui sont déposés comme...
Peut-être ne disant pas tout.
Une forme de... voilà, on ensevelit. Non, je crois qu'on on suggère simplement quelques images. Oui, tout à fait. Et je me... ce qui est intéressant aussi dans ce texte, ce sera, je crois qu'on va finir par là aussi, c'est donc le fait que vous avez choisi de dire voilà, l'histoire ne s'arrête pas là. Il y a même un personnage assez intéressant qui a choisi de se marier, en fait, une juive rescapée qui a choisi pour survivre de se marier à un Polonais, un de ses camarades de classe, donc. Et on serait tenté de la juger, mais... nous, depuis nos places là, si confortables, en disant elle aurait dû rejoindre les siens pratiquement. Enfin, et en même temps, ce qu'elle dit, elle le fait parce que l'impératif juif, c'est les enfants, c'est de survivre par les enfants. Et donc,
tout à fait. Et ça c'est beau.
Et ça finit aussi, la pièce aussi finit comme ça. Je voulais qu'on finisse là-dessus.
Sur les prénoms des vivants.
Sur les prénoms,
ceux qui sont là. Et c'est aussi pour eux qu'on les fait.
Qui sont les petits-enfants, donc, du camarade qui a émigré aux États-Unis. Qui a eu une flopée d'enfants et de petits-enfants. Et ça se finit là-dessus. Voilà. Je pense que c'est important de le dire quand même aux éditeurs que
il y a la vie,
en dépit de la noirceur absolue de ce texte, il y a la vie qui continue et qui s'arrête, qui continue après 41 et qui continue jusqu'à aujourd'hui. En tout cas, merci beaucoup, Justine Wojtyniak, pour ce voilà d'être venue nous parler
de
notre classe, donc qui se joue au théâtre de l'Épée de Bois à la Cartoucherie jusqu'au 10 mai.
Les lundis, mardis et mercredis.
Mardi et
vendredi pour les scolaires à 14h.
Voilà,
parce que je trouve que quand même c'est un matériau extraordinaire pour la transmission.
C'est vrai que vous avez fait tout un travail très important aussi autour des scolaires. C'était Mémoire Vive. Deux adresses pour nous retrouver: www.radio-rcj.info, mémoirevive au pluriel.net. À dimanche prochain.